Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode du podcast de Rendez-vous Création. Alors je suis aujourd'hui avec Vincent Luc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On va parler de photos, mais on va surtout parler de démarches de création à propos de la rédaction d'un livre technique, et en particulier d'un livre qui est « Maîtriser le Nikon D200 » que tu viens de finir et qui va bientôt sortir, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Aux alentours de la mi-octobre.
Alors, tu es photographe, journaliste et auteur. On peut consulter toutes tes activités sur vincentluc.com.
vincentlucphoto.com.
vincentlucphoto.com. Donc, tu as pas mal d'activités. C'est pas un peu dur de cumuler ?
C'est une passion avant tout, donc en fait, on compte absolument pas son temps et on prend plaisir dans ce qu'on fait. J'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime, donc en fait, ça s'équilibre plutôt pas mal.
Donc c'est la passion qui t'anime, la passion pour la photo, et elle te vient d'où au départ ?
On pourrait dire d'un accident en fait, une panne d'un appareil photo, en l'occurrence celui de mon père pendant des vacances. On s'est pas rendu compte de la panne pendant les vacances en question. On est rentré après un mois avec aucune diapo récupérable. Et mon frère qui faisait de la photo, en fait, a conseillé à mon père d'acheter tel appareil avec tel objectif, etc. etc. Ce qu'il a fini par faire. Je lui ai emprunté l'appareil et je lui ai rendu quand j'ai pu avoir les miens.
Et donc tu as fait des études de photo. Qu'est-ce que tu conseilles comme études pour des jeunes amateurs de photo qui voudraient se lancer dans l'aventure ?
Il y a pas mal de formations en fait qui se font. Il y a des diplômes en CAP qui sont une bonne découverte en fait du monde de la photo. Il y a des bacs professionnels qui sont un petit peu plus techniques. Il y a des BTS aussi qui sont encore un petit peu plus techniques, mais qui sont pas forcément des formations qui débouchent sur une pratique photo directe. En fait, c'est des formations qui sont très techniques. Et la pratique, même s'il y en a beaucoup en fait dans le cursus, il y en a jamais assez. Donc on sort pas en fait d'une école photo en étant photographe. On peut sortir d'une école photo en sachant tout faire, mais rien bien. Donc après, on se spécialise dans un domaine plutôt qu'un autre. Et il peut y avoir quand même des débouchés assez intéressants.
Et comment on se spécialise ?
Par les formations, par les stages. Il y a beaucoup de stages en entreprise qui sont prévus dans ces cursus-là, que ce soit dans les BTS, comme au lycée Renoir ou à l'école nationale Louis Lumière, qui est la formation technique photo. En BTS, en fait, sur 2 ans de formation, il y a 4 fois 6 semaines de stage. Donc avec des stages bien choisis, on peut non seulement compléter la formation scolaire qu'on reçoit, mais en plus découvrir des matériels qu'il n'y a pas forcément à l'école. Et quand ça se passe bien, on peut aussi avoir des propositions d'embauche plus ou moins déguisées.
Tu as participé à l'écriture de 2 livres et tu en as écrit toi-même 3, c'est bien ça ?
C'est ça.
Alors les 3 que tu as écrits, c'est « Maîtriser le Nikon D50 »,« Maîtriser le Canon EOS 350D » et le dernier dont on va parler aujourd'hui, « Maîtriser le Nikon D200 ». Comment est-ce que tu fais pour sortir le livre au moment où les appareils sortent ? Est-ce que tu es obligé d'avoir les matériels à l'avance ?
Ben en fait, en tant que journaliste, j'ai les informations à l'avance. Donc je peux déjà commencer à réfléchir et préparer un petit peu le terrain. En revanche, on est obligé d'avoir le matériel effectif pour vraiment réaliser les livres. Donc il faut qu'on dispose vraiment de l'appareil dès qu'il sort pour pouvoir commencer à travailler, faire des images avec, réaliser tous les tests dont on a besoin pour les livres. Maintenant que la trame en fait a été réalisée avec le 350D, donc qui a été le premier à sortir, qui était sans doute le plus long aussi à sortir, le travail en fait, il est d'adapter cette trame de départ aux spécificités en fait de chaque boîtier traité.
Et donc il y a une partie qui se déroule avant que l'appareil sorte, qui est plutôt une phase de préparation, et ensuite la phase de la réalisation, c'est dès que l'appareil est sorti.
Voilà.
Alors justement, la phase de préparation, on y vient. Comment tu choisis de faire un livre sur tel ou tel appareil ?
Il y a des appareils qu'on pressent en fait pour marcher, en particulier en entrée de gamme. Et puis il y a aussi le fait que certains appareils sont complètement incontournables. La démocratisation du réflexe numérique, elle a été lancée en fait par Canon avec l'EOS 300D à l'époque, qui a plutôt bien marché et qui avait vraiment fait baisser le prix du boîtier numérique d'entrée de gamme. Ça restait quand même cher. Ça a continué à être démocratisé en fait par Nikon avec le D70. Et Canon a repris la main avec le 350 et là il était... Enfin, on ne pouvait pas le laisser passer parce que les spécificités du boîtier en fait étaient telles qu'on avait quasiment toutes les fonctions du boîtier qui était un peu plus haut dans la gamme à un prix encore plus démocratique que celui du 300D à l'époque. Après, la sélection des boîtiers elle se fait en fonction des actualités. Il y a des boîtiers qui sont complètement incontournables. Le D200, il a été attendu par les Nikonistes depuis le milieu de la vie du D100, qui commençait quand même à vieillir avec un capteur 6 millions, avec pas mal de petits défauts en fait dus à son âge. C'était un boîtier qui était vraiment très attendu et qui était complètement incontournable en fait pour la réalisation des livres.
Et l'idée de faire le livre en lui-même?
En fait, c'est né chez Erol, donc la maison d'édition avec laquelle je travaille, donc Erol et VM en fait qui sont le même groupe. À l'époque, VM, donc qui était indépendant il y a quelques années, réalisait déjà des livres en fait sur les réflexes argentiques. Il y avait plusieurs auteurs en fait qui travaillaient là-dessus. Et sur le numérique, il y avait au départ pas grand-chose parce qu'on n'avait pas suffisamment de recul. Il y a eu quelques ouvrages qui ont été faits, qui ont eu le mérite en fait d'instaurer vraiment l'établissement de quelque chose comme ça. Il y a eu des traductions d'ouvrages étrangers aussi qui ont été faits chez VM et chez d'autres. Mais la maison d'édition voulait vraiment développer le secteur photo et installer Erol comme un acteur incontournable de l'édition photo. Donc ils cherchaient des auteurs et en fait c'est venu grâce à un ami à moi qui a fait un livre aussi chez Erol, donc sur la photo panoramique, qui savait qu'Erol cherchait des gens. On s'est rencontrés, on en a discuté. Au tout début, ça a pas mal traîné, et puis finalement, ça s'est installé, ça s'est lancé, et c'est plutôt bien parti.
Et justement, comment se passent les discussions avec l'éditeur pour définir le livre au départ ?
Au tout départ, en fait, ils m'ont demandé de proposer une table des matières, et vraiment un découpage, en fait, un découpage de l'appareil, un découpage de toutes les rubriques en fait, qu'on allait aborder, que ce soit des rubriques qui soient directement liées à la pratique pure du boîtier en question, ou des rubriques un petit peu plus généralistes, mais qui sont extrêmement importantes en numérique et qui bouleversent pas mal de choses par rapport à l'argentique, notamment sur l'archivage, sur la gestion d'un flux d'image, sur tous les accessoires qui sont livrés ou non avec l'appareil, tous les accessoires qui peuvent justement faciliter la réalisation des images, leur retouche. En numérique, on a maintenant des photographes qui retouchent leurs images, alors qu'en argentique, il n'y avait qu'en noir et blanc qu'on pouvait faire du labo à la maison, dans la salle de bain. En couleur, c'était beaucoup, beaucoup plus rare. Et on se retrouve maintenant à avoir besoin d'avoir des compétences aussi en termes de traitement d'images, parce qu'il est facilité par le numérique. Et il y avait quand même un vide à ce niveau-là, au niveau de la gestion vraiment d'un flux d'images numériques.
Donc on te demande de proposer un plan, et voilà. Sur cette base-là, il y a des discussions, et est-ce que l'éditeur propose, lui, des parties à rajouter ?
On en a pas mal discuté, oui. Il y a un des dirigeants d'Erol, justement, qui fait de la photo à titre personnel et qui avait des avis assez intéressants, justement, sur la chose. Donc on a pas mal discuté de la table des matières au départ. Et le fait d'être journaliste pour la réalisation de la table des matières m'a beaucoup aidé, puisqu'on a pas mal de questions de lecteurs avec le magazine. Donc on sait à peu près, pas forcément très bien, mais à peu près les questions que se posent les utilisateurs des appareils. D'autre part, j'étais prof encore à l'époque, et donc mes étudiants en fait, qui découvraient la photo numérique me posaient forcément des questions que je notais toujours dans un coin de la tête, et que j'ai après réorganisé, resynthétisé ou reformulé, réordonné.
Avant d'écrire un livre, j'imagine que tu manipules beaucoup l'appareil. Comment ça se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais comme manipulation ?
Toute la partie des tests, en fait, comme je la fais pour le magazine, comme le titre l'indique, en fait, pour maîtriser le boîtier, savoir ce qu'on peut en tirer, savoir comment mieux l'utiliser, savoir si la configuration de base est la bonne, savoir comment pallier à certains de ses défauts, et arriver en fait à marier ça avec les notions générales de photos telles qu'on les a déjà un petit peu en argentique. Savoir ce que ce boîtier spécifiquement apporte par rapport aux notions qu'on avait au départ, savoir les changements aussi qu'il apporte par rapport aux habitudes qu'on peut déjà avoir. Et après, c'est un travail de synthèse en fait de tout ça, de réordonnement, qui est fait dans un premier temps tout seul de mon côté devant mon Mac, et après donc qui est en discussion aussi avec les éditrices qui travaillent avec moi en relecture, en simplification aussi des discours.
Donc au fur et à mesure, tu échanges toujours tes informations avec l'éditeur ?
Oui, ouais, ouais. Il y a un gros travail de relecture qui se fait chez Erol pour simplifier des textes, pour clarifier des textes. Et en fait, la force qu'on a donc avec les deux éditrices avec qui je travaille, qui sont Stéphanie Poisson et Aude de Sel, c'est que Stéphanie en particulier n'est pas photographe. Aude pratique un petit peu à titre personnel et a déjà travaillé sur d'autres ouvrages justement chez VM sur les notions photo. Mais en fait, quand j'envoie un texte, si elles ne le comprennent pas, c'est qu'il n'est pas clair. Et c'est justement en mariant un petit peu mon contenu technique et leur simplification, qu'on arrive à avoir des rubriques qui sont toujours aussi pointues en termes de technique, mais qui sont beaucoup plus accessibles que mon manuscrit de départ, qui n'est pas toujours très clair.
Est-ce que parfois tu es confronté à des problèmes techniques avec les appareils ?
Ça peut arriver, ouais. Ouais. La difficulté la plus grande, en fait, c'est d'obtenir des vraies informations techniques. Les marques jouent souvent la langue de bois en disant que telle ou telle donnée est confidentielle, ce qui peut s'avérer vrai dans beaucoup de cas. Mais on a quand même une aide des marques au niveau de l'obtention d'informations, d'accessoires. Mais on ne rentre pas non plus complètement dans le fonctionnement du capteur, du circuit, de ceci, de cela. On va expliquer en fait les grands principes, les spécificités de chaque traitement de signal chez Canon ou chez Nikon. Mais surtout dans un angle pratique en fait.
Alors on va passer à la phase de réalisation. Pour cette phase, tu dois écrire, mais c'est des livres illustrés. Donc j'imagine les photos, tu les fais avec l'appareil.
Tout à fait, ouais.
Pour les schémas.
Les schémas, en fait, c'est des schémas que je cherche quand je dois illustrer telle ou telle fonction. Je cherche pas mal sur Internet. Je contacte aussi les marques qui me trouvent justement les schémas en question. Donc de ce côté-là, ça passe plutôt pas mal. Et après, en termes d'illustration vraiment en photo, il y a un gros boulot qui est sans doute la partie la plus dure en fait du livre, c'est d'arriver à trouver des images qui servent parfaitement la notion technique qu'on veut expliquer. Il faut en plus anticiper la photogravure et la publication, donc il faut que l'effet qu'on voit à l'écran se voit une fois le livre publié. Et tant qu'à faire, que l'image soit pas trop désagréable à regarder et que les gens se reconnaissent en fait dans les sujets abordés. Donc être vraiment au plus proche des conditions d'utilisation des lecteurs, tout en essayant aussi de tirer vers le haut un peu sur d'autres notions. On a pas mal développé sur le dernier une rubrique en fait sur le cadrage pour essayer de donner envie de cadrer un petit peu différemment et de voir comment le D200 peut nous aider à cadrer un peu différemment par rapport à d'autres boîtiers sur lesquels ce sera moins évident.
Alors justement, qu'est-ce qui permet de mieux cadrer avec le D200 ?
Il y a notamment donc les collimateurs autofocus qui sont très correctement répartis en fait sur la surface du champ cadré. Donc ça permet d'éviter de mettre son sujet complètement au centre, là où il y avait le seul capteur avant. Là, on peut avoir un autofocus tout aussi performant sur les côtés qu'au centre, ce qui évite les cadrages trop plats, trop classiques. D'autre part, dans le viseur, on a un quadrillage optionnel qui peut s'afficher à la demande, qui est extrêmement pratique en fait pour assurer vraiment une bonne assiette de son image, un horizon qui soit vraiment horizontal. Et quand on a goûté un des polyquadrillés, on ne peut plus s'en passer.
Et alors quand tu prends ces photos, est-ce que des fois tu as des problèmes de droit à l'image ? Par exemple, quelqu'un qui serait dans le livre, à qui tu n'aurais pas demandé l'autorisation et qui après coup ne serait pas contente ?
En fait, tout ça c'est anticipé. En feuilletant les livres, justement, c'est à mon sens un de leurs défauts, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments humains, justement à cause du droit à l'image. En reportage, on peut toujours s'arranger vaguement pour que bon, les gens ne soient pas reconnaissables et donc ne pas être attaquables. Mais dès qu'on veut faire du portrait ou des scènes un peu plus de vie, là ça devient assez compliqué parce qu'il y a une véritable psychose en fait du photographe maintenant, qu'on retrouve avec les personnages mais qu'on trouve aussi avec les monuments. Mmh. La tour Eiffel la nuit par exemple, c'est quelque chose qu'on ne publiera jamais parce que l'éclairage a été déposé. Et il faut une autorisation de publication pour le fameux éclairage de la tour Eiffel la nuit.
Les photos, on se doute bien que tu les fais avec l'appareil dont tu parles, donc en l'occurrence le Nikon D200. Par contre, les schémas et puis même le texte, on peut se demander avec quel logiciel tu gères tout ça ?
Les schémas, les quelques-uns que j'ai pu faire, je les ai faits sous Photoshop, aussi étonnant que ça puisse paraître. Tout le monde me dira, mais tu peux faire beaucoup mieux et plus facilement avec Illustrator, certes. Le pire, c'est que j'ai Illustrator, mais je ne sais absolument pas m'en servir. Donc, comme on travaille toujours dans l'urgence, je sais qu'avec une gestion assez fine des calques et compagnie, je sais comment œuvrer en fait dans Photoshop pour faire mes schémas. J'en ai pas beaucoup à faire non plus, donc je m'en sors comme ça. Et quand il y a des schémas un petit peu plus léchés à faire, je donne une indication et c'est refait en fait après au niveau de la maquette et de la création selon les indications en fait que j'ai fournies.
Et pour écrire, pour sûrement l'éditeur a dû t'indiquer quel logiciel utiliser, te fournir une feuille de style.
On travaille tout bêtement avec Word parce que c'est pratique, c'est universel. Et on travaille aussi avec des feuilles de style donc, qui m'ont été fournies par Erol donc pour faciliter ensuite la phase de mise en page.
Et au niveau du matériel, on aura compris que tu utilises un Mac.
Exactement.
Et justement, il n'y a pas de problème d'échange de fichiers entre Word sur Mac et Word chez Erol, qui est peut-être sur PC.
On n'en a jamais rencontré. Ils sont effectivement sur PC chez Erol.
On a vu tout à l'heure que tu te mettais d'accord avec ton éditeur sur un plan. À partir du moment où le plan est décidé, est-ce que tu as une méthode particulière pour rédiger, pour écrire? Est-ce que tu le fais dans l'ordre? Est-ce qu'il y a des priorités?
Sur le tout premier livre, en fait, je suis parti un peu comme à mon habitude dans tous les sens et c'était pas vraiment une bonne idée. Donc j'ai commencé à écrire de ci, de là, en fait, en prenant chaque rubrique comme si c'était un article. Donc on s'est rapidement aperçu que c'était pas du tout une bonne méthode. On n'écrit pas un livre comme on écrit un article, en fait. On peut faire des élisions sur un article de presse qu'on peut absolument pas faire dans un livre. Il y a vraiment tout un déroulé à respecter, en fait, dans le livre. En théorie, ça se lit en partant du début à la fin et non rubrique par rubrique comme je l'avais rédigé au départ. Donc quand on reprend vraiment le déroulé, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des redites d'une rubrique à l'autre, qu'il peut y avoir un mot qui apparaît mais qui n'est expliqué que dans une rubrique après. Donc ça passe pas du tout. Donc sur le premier, c'est vrai qu'on a refondu tout ça vraiment. Sur les suivants, j'ai commencé à travailler vraiment par ordre. Et en tout cas, quand je travaille pas par ordre, parce que des fois je peux avoir un logiciel qui est pas disponible ou un manque d'illustration pour une rubrique sur laquelle donc je me retrouve coincé, je passe sur autre chose, mais on s'arrange toujours pour livrer et relire les rubriques dans l'ordre.
Et au niveau de l'écriture, est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes que ce problème d'ordre ?
Tous les problèmes d'écriture que peut rencontrer un journaliste qui n'est pas formé au journalisme et qui se met à écrire un livre en pensant qu'il écrira un livre aussi facilement qu'il écrit ses articles. Donc tout ce que je disais tout à l'heure, en fait, le fait de pas expliquer les mots comme il faut, de pas faire de lien entre les phrases. J'ai une certaine tendance aussi à être assez bavard aussi par écrit, ce qui n'est pas forcément un bon plan. J'ai appris pas mal en fait en termes d'écriture, au niveau des liens entre les phrases, au niveau des légendes. Les légendes dans un livre en fait se font pas du tout de la même façon que les légendes en presse. En presse, on a tendance à répéter un petit peu ce qu'on a dit dans le texte courant, donc à mettre la même information, mais plus facile à lire, parce que les gens qui consultent en kiosque ont tendance à regarder l'image, la légende, pouf, chercher l'info et après plonger dans le texte courant. Et en fait, dans un livre, on fait pas du tout ça. Les légendes ne doivent pas être redondantes avec l'information du texte, mais doivent compléter. Ça, je l'ai découvert aux dépens de mes pauvres éditrices qui ont relu les premiers manuscrits. J'espère que je progresse depuis.
Et pour la phase de publication, comment se passe la finalisation avec l'éditeur ?
En fait, une fois que les textes sont écrits de mon côté, sont relus une première fois chez Erol, on retravaille les textes, ça m'est renvoyé, on retravaille encore un petit peu ces textes-là, et une fois qu'ils sont validés, ça part en maquette. Donc c'est maquetté dans le nord, à côté de Lille, et on récupère ensuite des épreuves, donc des PDF en fait, des futures pages. PDF qui sont relus par plusieurs personnes une première fois. Il reste toujours des problèmes de place, il reste éventuellement des coquilles, des répétitions qu'on n'a pas vues avant. Et comme en fait le livre est pensé en succession de double pages, de quadruple pages et autres, pas du tout un déroulé de livre classique, on a pas mal de petits problèmes de mise en page, de calibrage en fait, pour arriver vraiment au bon volume. Et c'est aussi ça qui rend intéressant la phase de création. C'est vrai que quand on commence à récupérer les pages montées, qu'on a déjà passé pas mal de temps sur les textes, un peu tout seul dans son bureau, là il commence à y avoir une phase d'échange, de voir vraiment l'objet qui se forme. Moi, je sais que c'est ma phase préférée, d'avoir des épreuves de relecture, d'avoir des documents sur lesquels on va gribouiller, raturer pour corriger la mise en page, pour ceci, pour cela. Et en fait, le livre fini est toujours aussi plaisant à découvrir, mais j'ai une affection particulière en fait pour toutes les phases intermédiaires, tous les documents de travail en fait qui sont rares et amusants et sur lesquels on va des fois s'arracher les cheveux pour gagner.
Donc les maquettistes te demandent comment on pourrait modifier un petit peu le contenu pour que ça rentre dans la page. Et toi, par ailleurs, tu dois faire des remarques sur la mise en page pour
voilà, jouer, c'est ça ? Il peut, dès la phase de création en fait, du fichier Word, on a déjà des instructions de maquette. La plupart du temps, des idées assez précises de comment ça doit être mis en place, est-ce qu'il faut telle image avec un détail, est-ce qu'il faut que le détail soit à 100%, est-ce qu'il faut que le détail soit plus petit, est-ce que telle image doit être privilégiée par rapport à telle autre. Donc ça, il y a déjà des instructions qui sont données. Après, les textes sont calibrés, effectivement, en relecture, et il peut arriver qu'il reste encore des débords, des trucs à couper, ou des morceaux de texte, des fois, qui tombent relativement mal, donc on fait modifier, effectivement, en maquette, faire un jeu de deuxième épreuve.
Alors, une fois que le livre est sorti, il doit y avoir une phase de suivi sûrement assez intéressante, par exemple, le suivi des ventes, tu regardes un petit peu comment ça se passe dans les librairies ?
Bon, en fait, j'ai relativement peu de chiffres de ce côté-là, donc je regarde en fait le classement sur Amazon, mais sans poursuivre de statistiques plus que ça. Et en fait, une fois que le livre arrive en fait en librairie, c'est vrai que pour les gens qui le découvrent, il est complètement nouveau. En fait, moi, je suis déjà en phase de production du prochain, donc avec finalement peu de temps pour savourer la sortie de l'ouvrage. Bon, même si on la savoure toujours, évidemment.
Et tu dois avoir des retours des lecteurs.
Il y en a pas mal, oui, qui me contactent par l'intermédiaire de mon site. C'est toujours intéressant parce que les lecteurs du livre, ils me contactent en général parce qu'ils ont un doute sur quelque chose, qu'ils se posent une question. Et nous, ça nous permet en fait de faire évoluer la collection et de pouvoir essayer de faire mieux à chaque fois, parce que c'est quand même ça le challenge.
Alors, on a parlé des fichiers Word. Un fichier Word, ça peut être rapidement corrompu. Un disque dur, ça peut rapidement tomber en panne. Tu dois donc avoir des stratégies de sauvegarde et d'archivage.
Stratégie, je ne sais pas si on peut appeler ça stratégie, j'ai plutôt une paranoïa de l'archivage et du stockage. Donc j'ai évidemment tous mes fichiers de travail qui sont sur mon ordinateur, qui sont copiés quasiment toutes les deux heures quand c'est vraiment une phase de production intense avec des retouches d'images, etc. etc. C'est copié toutes les deux heures sur un petit disque externe et l'ordinateur en fait est backupé tous les soirs. Et j'ai trois jeux de disques durs d'archives. Au cas où.
Pas de support optique.
Pas de support optique. Non, c'est ingérable. Au tout début, en fait, sur d'autres projets que les livres chez Erol, j'avais justement des supports optiques. Et sur un bouquin, quand j'arrivais à 12 CD, c'était assez pénible quand même.
Donc aujourd'hui, tu finis maîtriser le Nikon D200. Ça veut dire que tu es déjà sur un prochain livre ?
Quasiment, ouais. C'est entamé, c'est en grande phase de réflexion. Pour en fait adapter la table des matières existantes sur les spécificités d'un prochain boîtier. Il n'y a encore rien de signé, mais on peut s'attendre à ce que les Nikon D80 soient traités. Le Canon EOS 400D qui vient d'être annoncé par Canon peut se montrer un boîtier aussi très intéressant à traiter. Et peut-être après, si le temps le permet, d'arriver à suivre aussi d'autres marques que les deux grands. Il y a Sony qui arrive sur le marché avec des boîtiers plutôt, avec un boîtier pour le moment, plutôt intéressant, donc avec un bon apport performance-prix.
Alors, on va donner rendez-vous à tous les auditeurs mi-octobre pour la sortie de Maîtriser le D200.
Voilà.
Et puis, tous les mois pour Réponse Photo. Et donc, merci beaucoup, Vincent.
Merci à toi.
Salut. Le fond musical était de Pierre Fosco, c'est un mashup, un bootleg entre The Clash et Snoop Dogg. Vous pouvez retrouver Pierre sur podcast.com et sur son magazine musical musicplease.com avec un K.